à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Antoine d'Aragon, bonjour. Et bon, et merci d'être venu pour ce deuxième entretien. Nous sommes là pour parler ensemble d'un drame lié à la guerre civile dans un pays qui est le Soudan. C'est un drame dont on parle très peu dans les médias occidentaux et qui pourtant n'est pas si éloigné de nous que ça. Comme vous le disiez, il faut 5 heures d'avion pour se rendre à Khartoum. C'est quand même le cœur de l'Afrique et ce pays vit un drame considérable. On a essayé dans l'entretien précédent de comprendre comment on en était arrivé là à la suite de multiples conflits de type guerre civile depuis l'indépendance en 1956 du Soudan. Mais ce qui reste, c'est que depuis avril 2023, ce pays est rentré dans sa quatrième guerre civile. Et c'est une guerre entre deux généraux qui rivalisent pour évidemment capter le pouvoir. Une armée qui est l'armée officielle, une autre armée qui est une armée de mercenaires. Et les populations civiles, évidemment, souffrent de façon considérable de tout ça. Donc je voudrais qu'on revienne là-dessus. Quel est le problème humanitaire aujourd'hui au Soudan? Est-ce que vous avez des amis, vous qui avez beaucoup été au Soudan, qui avez noué de nombreuses relations là-bas, qui continuez à rester en contact avec tout un tas de vos anciens amis et collègues? Qu'est-ce qui se passe véritablement au Soudan aujourd'hui?
En avril 2023, quand la guerre des généraux a démarré, j'ai vu très rapidement partir à peu près tous les gens avec qui je travaillais autrefois, ont quitté Khartoum. Ils ont quitté Khartoum, alors ils ont commencé par aller dans des villes proches, Oued Medani, Sennar, etc. Et assez rapidement, ils ont quitté le Soudan parce qu'ils avaient la chance d'appartenir quand même à des classes aisées. On les retrouve au Caire d'abord, on les retrouve dans le Golfe, on les retrouve à Londres, on les retrouve aux États-Unis. Mais la diaspora soudanaise étant très importante, ces gens-là ont pu, les gens qui avaient la chance d'avoir des parents à l'étranger, ont pu trouver refuge à l'étranger. Mais aujourd'hui, les chiffres officiels des Nations Unies disent qu'il y a environ 10 millions de déplacés au Soudan. 10 millions de déplacés, alors que je crois que le chiffre total des déplacés dans le monde est évalué à 110 ou 120 millions. C'est-à-dire que quasiment un déplacé sur 10 est soudanais. Et si on considère que ça fait suite à des millions de déplacements antérieurs, c'est probablement l'un des pays qui a été le plus meurtri par les déplacements forcés de population depuis 50 ans.
Alors, si vous le permettez, la population totale du Soudan est un peu en dessous de 50 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est 20% des gens qui ont été déplacés, 20% de la population.
Il y a 43 millions d'habitants dans le Soudan du Nord.
Oui, c'est le Soudan.
Qui reste après la partition du Soudan, qui fait maintenant plus qu'1,8 million kilomètres carrés, 43 millions d'habitants.
Oui, donc 10 millions de déplacés, c'est un quart, c'est 25% de la population. Ce qui est énorme, évidemment, ce sont des chiffres qu'on a du mal à imaginer.
Mais les déplacements s'accompagnent également de beaucoup d'autres phénomènes. L'un des premiers, c'est que les populations ne sont plus en état de faire l'agriculture qui leur permette de survivre. C'est un peuple essentiellement agricole ou pastoral. Donc ces gens-là ne peuvent plus cultiver la terre. Les troupeaux sont décimés. Les services de soins n'existent plus. On dit qu'il y a aujourd'hui 20% des établissements de soins qui n'ont pas été détruits ou gravement endommagés. Mais même si vous avez des établissements de soins, il faut arriver à acheminer de l'aide. Il ne reste plus aujourd'hui, je crois, que Médecins Sans Frontières comme ONG. Mais une ONG comme Médecins Sans Frontières qui n'est pas approvisionnée en médicaments, Le seul approvisionnement qui arrive au Soudan, et c'est ça qui est dramatique, c'est l'armement. L'armement notamment en provenance des Émirats et qui servent à alimenter les forces de soutien rapide de Hemeti. Non, la situation est absolument abominable. Elle est probablement bien pire que ce qu'on peut trouver dans les autres zones de conflit dans le monde, dont on parle infiniment plus, parce qu'on a plein de meilleures raisons d'en parler. Mais la situation au Soudan est absolument catastrophique.
Oui, alors vous le disiez, il y a une première crise qui est celle des réfugiés. 25% de la population déplacée, l'essentiel dans les pays limitrophes, parce que c'est souvent des agriculteurs ou des populations pastorales, donc des gens un peu, des bergers, etc., qui se retrouvent dans des camps avec ce qu'on peut imaginer comme misère dans ces camps, comme difficulté pour avoir de l'eau potable et pour se nourrir. Donc dans des camps, dans des zones limitrophes du Soudan, les plus riches ont réussi à partir en Europe ou aux États-Unis. Et il y a toute une filière également de gens qui alimentent la filière libyenne ou maghrébine, qui vient ensuite essayer de venir en Europe en traversant la Méditerranée ou en s'embarquant sur des rafios pour fuir en France, en Angleterre, en Italie ou en Allemagne. Donc une partie de ces gens font ça, se ruinent d'ailleurs pour faire ça et se retrouvent dans les conditions que l'on connaît. Ça, c'est un premier aspect qui est déjà absolument dramatique. Il y a un deuxième aspect, ce sont la pénurie alimentaire et la pénurie sanitaire. Vous l'avez dit, les propriétés agricoles, les élevages ne sont plus entretenus, les populations sont parties, tout est décimé. Même les grandes exploitations, souvent, ne sont plus entretenues. Donc c'est dramatique, sur sans doute plusieurs années, plusieurs générations, même après la fin du conflit. Il y a la pénurie sanitaire. On revient pas dessus, mais on imagine ce que c'est. Pas de médicaments, pas de médecins, donc les populations livrées elles-mêmes. Mais il y a aussi deux autres aspects importants, qui sont le trafic d'êtres humains, malheureusement. Il y a des chiffres alarmants, et le commissariat des Nations Unies a attiré l'attention dessus, où il y a des gens qui sont enlevés pour être vendus comme esclaves, mariés de force, rançonnés, sans parler de tous les viols qui peuvent exister à droite à gauche. Il y a malheureusement sur les réseaux Internet tout un tas de choses qui circulent, qui montrent que c'est épouvantable. Et puis, il y a le dernier aspect, donc là, est-ce que vous avez des informations? C'est le nettoyage ethnique du Darfour. Parce que le Darfour est une population qui a une certaine homogénéité et qui est en train de se faire complètement laminer, nettoyer ethniquement. Est-ce que vous avez des informations?
Mais des informations, non, mais si on considère le Darfour, par sa géographie, par sa topographie, est une région dans laquelle il y a, par la hauteur des monts qui le dominent, reçoit une certaine quantité d'eau. Donc, c'est une région dont une partie pourrait être relativement riche au point de vue agricole et pastoral. S'y trouvent des tribus considérées comme noires par ce qu'on appelle les Arabes, dont je vous ai expliqué une autre fois que ce n'était pas forcément exactement les Arabes tels qu'on les entend aujourd'hui. Et ces populations arabes qui viennent plutôt du nord, du côté de la frontière libyenne, sont des gens qui descendent et qui essayent de s'implanter dans le Darfour, et ça c'est assez ancien, ça a plusieurs décennies, et les Angawis notamment, souvenez-vous des massacres à l'époque, et ces gens-là voudraient essayer d'éradiquer les populations non-arabes pour s'approprier, pour mettre la main sur ces terres-là.
On peut parler de génocide.
Il y a beaucoup de ces populations qui sont obligées de fuir vers le Tchad voisin. Je crois qu'il y a 500 000 réfugiés soudanais au Tchad qui vivent dans des conditions abominables. Alors, il y a famine, exécution, Beaucoup, il y a plus de gens qui meurent de faim que d'exécution. Mais il y a également la façon dont les bandits, les voyous, ces forces armées qui sont peuplées souvent
de mercenaires prêts à tout,
de jeunes prêts à tout qui n'ont aucune conscience de rien et qui se livrent à des viols, à des ventes d'êtres humains, la réduction d'esclavage. L'esclavage existe dans ces régions-là. C'est pas quelque chose qui a disparu.
Oui.
C'est coq en stock continue.
Oui, malheureusement, et l'esclavage, contrairement à un discours assez répandu en Occident, n'est pas le propre de l'Occident. Il existe depuis fort longtemps dans ces régions et malheureusement continue à exister. Je voudrais citer pour terminer une journaliste spécialisée sur le Soudan qui s'appelle Gonel Lenoir, qui dit que les pratiques actuelles de cette armée de mercenaires, le FSR, visent à la fois à terroriser les populations et à détruire leurs moyens de subsistance pour les chasser de leurs terres et en prendre le contrôle. Et ces exactions s'inscrivent dans l'entreprise d'épuration ethnique de cette région visant les populations non arabes, principalement les Massali. Le peuple Massali semble avoir été la cible principale de cette tentative d'épuration, au cours de laquelle 10 à 15 000 personnes auraient été massacrées au cours des seuls 3 premiers mois du conflit. Donc ça donne l'ampleur, 10 à 15 000.
Oui, c'est les 10 à 15 000 pendant les 3 premiers mois du conflit.
Je
pense
qu'on
est très, 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 très loin du compte, sans compter tous ceux qui meurent de faim.
Oui. On peut parler vraiment d'un
génocide.
D'un génocide
parfaitement juste.
C'est un génocide qui se passe sous nos yeux et sur lequel malheureusement...
dont l'Occident se fiche.
Oui, on ne regarde pas ce qui se passe et on n'a pas de solution. Merci pour ce deuxième entretien, M. D'Aragon.